La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Comment un jeune qui n'aimait pas prier pendant son adolescence en est venu un jour à l'âge de 19 ans à aimer prier pendant son adolescence en est venu un jour à l'âge de 19 ans à aimer prier. Il s'est passé quelque chose. Pendant plusieurs années, je connaissais les principes, les valeurs, les normes de Dieu et le comportement qui doit en découler, mais je ne connaissais pas Dieu. Et un jour, j'ai découvert le Dieu de ses valeurs, de ses principes de vie. Comment ? Par la prière. Je me suis mis à prier, vous savez, ce type de prière-supplication. Il y a différentes formes de prière. Prière de louange, d'action de grâce, de reconnaissance, c'est la même chose. Prière d'intercession, on y reviendra. De supplication. Et je faisais cette prière au Seigneur pour obtenir la liberté du sabbat dans cette base aérienne de Strasbourg-Ensheim. Et voilà que Dieu a répondu à ma prière. Alors comment ça s'est fait? J'apprends la nouvelle le lundi, tu dois travailler samedi. Alors je suis allé à la réunion de prière. Le mardi soir, j'ai présenté ce sujet, on a prié. Et après, silence radio. Le ciel, qu'est-ce qui se passe? Et le jour approchait. Vais-je avoir mon sabbat de libre? J'ai appris que le pasteur de l'époque, Karstenbach, avait passé un coup de téléphone le mercredi, le lendemain, à André Dufault, qui était le responsable de la liberté religieuse, et il a téléphoné au ministère des Armées. Et ce ministère a appelé le colonel de la BA 124, qui lui-même a contacté le médecin-chef du service d'infirmerie où j'étais affecté. Oui. Et Dieu a répondu ce sabbat matin à 9h30. Je découvrais le Dieu du sabbat. Je connaissais le sabbat de Dieu. Et ce jour-là, j'ai appris à connaître le Dieu du sabbat. Je découvrais l'amour de Dieu pour moi comme celui d'un père pour son enfant. Je découvrais de manière expérimentale la relation que l'on peut entretenir toute sa vie avec Dieu, libre, libre chaque jour, libre de l'aimer, libre de le prier, où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de limite. N'est-ce pas merveilleux? Vous avez reçu, je crois, ceci ce matin. Alors, si vous ouvrez à l'intérieur, je reviendrai un petit peu sur le détail. Vous avez deviné qu'on va parler de la prière ce matin. Je vous ai donné une expérience qui a été pour moi un déclenchement et qui m'a permis d'apprendre à aimer, et finalement à aimer Dieu, quoi. Si tu aimes Dieu, tu aimes prier. Si tu n'aimes pas prier, c'est que peut-être il faut découvrir cette relation personnelle avec Dieu. Alors, il y a une petite fiche claire qui est indiquée ici. Alors, cette petite fiche, vous pouvez la remettre librement, la garder pour vous. Mais vous pouvez la remettre à la sortie aussi à l'un ou l'autre de nos diacres, diaconesses. Vous pouvez répondre. Oui, peut-être la première question qu'on peut se poser, pour toi, qu'est-ce que c'est prier? Alors, je vais faire court, je vais aller droit au but. Pour moi, prier, c'est une relation avec Dieu. Relation permanente. Oh, tu ne s'exprimes pas toujours à genoux. Vous savez, je vais prendre un exemple. Je suis devant vous, ma femme n'est pas présente. Elle est auprès de mon beau-père, ce matin, pas loin d'ici. Je suis en pensée avec ma femme. Je suis en relation avec ma femme. Je vous regarde et je pense à elle en même temps. Possible hein, de faire les deux en même temps. Un exemple. La personne ne peut pas être là et Dieu, on ne le voit pas et pourtant, on le prie. C'est quand même un grand défi, ça. Ça fait sourire bien des athées et d'autres personnes. Et pourtant, c'est notre vie. Pourrions-nous vivre sans prier? Pourquoi prier? Si on considère que la parole est l'organe essentiel utilisé pour prier, alors Jésus dit dans Luc 6, versets 7 et 8, alors qu'il nous enseigne, à prier, les disciples ont demandé. D'ailleurs, ils ont demandé à cela suite au fait qu'il l'avait prié. Jésus venait de prier, et voilà que l'un de ses disciples dit, « Enseigne-nous à prier, Seigneur. » Alors, en priant, dira-t-il, « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Ah, c'est fini les ritournelles, tu feras ce que vous lui demandiez. Ah, c'est fini les ritournelles, tu feras deux pater, et puis le reste si vous voulez. Non. Non, c'est même si tu fais trois pater, enfin trois, notre Père, on s'entend bien ici même, hein, parlons français. Ouais, c'est pas en redisant, et pourtant on se laisse surprendre à prier machinalement, ça vous arrive pas? Tiens, je redis la même chose hier soir que ce que j'avais dit avant-hier soir. On se laisse surprendre. L'essentiel, c'est de prier par le cœur. Au-delà de prier par cœur à notre Père, c'est de prier par le cœur, bien sûr. L'un d'entre nous posait la question dans une réunion de prière dernièrement. Oui, d'accord, qui priait, finalement? Dieu, certes, bon, on sait qu'on prie Dieu. Mais alors, attendez, est-ce qu'il faut prier le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Oui, on pourrait prier les trois. Écoutez, on va rester simple. Dans Matthieu 6, verset 9, Jésus nous donne l'orientation de cette relation à Dieu. Voici comment vous devez prier. Et il commence, notre Père. Voilà, c'est très simple. Tu pries notre Père. Notre Père à tous. C'est bien de prier, parce que finalement, en disant notre Père, c'est même pas mon Père. C'est vrai qu'on pourrait chacun dire mon Père céleste. Hein? Mais c'est à la fois notre Père à tous, et même celui de Jésus, dis donc. Ouais. Voilà que Jésus va prendre un exemple, la même manière dont il parle aussi à son Dieu, à son Père, mais il est Dieu, Jésus. Ah oui, oulala. Des fois, c'est compliqué. Non, non, restons simples. Notre Père. Alors, Jésus, quand je dis, au nom de Jésus, à la fin de la prière, on colle comme ça, là, comme si on a bien ficelé notre prière, et au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, au nom de Jésus? Eh bien oui, je peux appeler maintenant Dieu. Mon Père, notre Père, nous pouvons, grâce à Jésus, qui lui a appelé son Père, Père, mon Dieu parfois, et grâce au fait, par rapport à ce qu'il a fait pour nous, par rapport à sa vie, il nous a permis de retrouver le chemin du Père, d'appeler à nouveau Dieu le Père, nous qui étions des fils prodigues. De retrouver le chemin du Père, de retrouver un relationnel que nous avions perdu à cause de ce que vous savez, du péché. Nous avons retrouvé une relation de fils et de fille avec le Père, libre, libre du péché, saine, confiance, affectueuse et sereine. Alors le Saint-Esprit. On chante des chants sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
C'est vrai.
Je dirais que le Saint-Esprit apparaît comme l'agent, le canal qui favorise cette relation au Père. Voilà. Et que celui qui même va nous inspirer, va inspirer peut-être notre prière vers Dieu. J'évoquais tout à l'heure plusieurs manières, hein, la louange, plusieurs manières de prier, d'être en relation avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle la prière de louange, ça c'est un phénomène très contemporain. Attention, soyons attentifs à la prière de louange. Généralement, ça, c'est vrai que ça déménage, hein, les prières de louange, là où ça se passe, là où on les dit comme ça, c'est avec une musique, c'est très, très enlevé. Ne confondons pas la manière dont on le fait avec celui vers lequel on tend pour le faire. On n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour faire plaisir à Dieu. La prière de louange, pourquoi pas prier pour ce qu'il est. La prière d'action de grâce. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi hier, ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, ce qu'il fera pour toi demain. Ça, c'est la prière action de grâce, le remercier. Il y a la prière contemplation, ça, on n'est pas trop habitué dans le milieu. Contempler, regarder. Qu'est-ce que ça veut dire contempler? Regarder attentivement et longuement une personne. Vous savez, ça me fait penser à Marie. Marie, la Béthanie, il y a son frère, sa sœur. Sa sœur est là en train de préparer le repas et Marie est au pied de Jésus en train de le regarder. J'imagine le contempler. Prière d'écoute. À la soif d'entendre, à la soif de sa présence, Jésus, d'entendre. Ce qui fera dire à plusieurs aujourd'hui commentateurs, oula, il se passe quelque chose entre Marie et Jésus. C'est que, bon, mais écoutez, là, c'est tout simplement une contemplation, une admiration, la soif d'entendre et de recevoir Jésus pour lui apporter la paix du cœur. Il y a la prière confession, on lui dit tout ce qu'on a sur le cœur, enfin, ce qui nous sépare de lui, ce qui nous sépare de nos frères les hommes. Il y a la prière requête, ça on la commet pas mal. C'est ce qui revient le plus souvent, vous êtes d'accord, de lui dire nos besoins. Oui. La prière d'intercession, prions les uns pour les autres. Okay. Puis la prière témoignage aussi de foi. C'est-à-dire qu'on dit à Dieu ce qui nous pousse à croire en lui, à lui faire confiance. Pourquoi prier les uns pour les autres? Pourquoi prier les uns pour les autres? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Oui, parce que finalement, quand on sait, et on l'a lu tout à l'heure, Seigneur, Dieu connaît tous nos besoins, pourquoi le prier alors qu'il connaît tous nos besoins? C'est intéressant de dire, premièrement, que prier les uns pour les autres, parce que Dieu nous le demande, tout simplement. Parce qu'il appelle les croyants à prier les uns pour les autres. Et je vais prendre deux exemples. Un dans Job, au chapitre 42, verset 8. Un exemple dans l'Ancien Testament. Vous connaissez l'histoire de Job? Vous avez entendu parler? Job 42. Il faut arriver au dernier chapitre, 42 chapitres. On pourrait dire pratiquement 37 chapitres de silence de Dieu. C'est assez curieux, je remarquais cette semaine que le livre d'Esther et de Job se suivent. Esther ne parle pas du nom de Dieu. Et Job laisse, le livre de Job, laisse le personnage de Job dans une attente qui dure 37 chapitres. Je ne sais pas combien de temps ça a duré cela, mais alors on connaît son parcours de souffrance, il en est sorti. Par la grâce de Dieu. Il tient bon, peut-être la foi par un fil. Et le texte dit au chapitre 42, alors que Dieu déjà s'est fait connaître à lui à partir du chapitre 38, là, quatre chapitres où Dieu se révèle à lui au travers de la création, qui laisse d'ailleurs Job bouche bée. Qu'est-ce que je peux dire de plus, Seigneur, dans tout ce que tu as dit jusqu'à présent ? Je reconnais que tu peux tout, chapitre 42, verset 2, que rien ne s'oppose à tes pensées, etc. Et c'est là qu'il va ajouter, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et ça, c'est le type d'expérience. J'imagine que plusieurs d'entre nous ont fait cela. Je l'ai fait là, à Strasbourg-Ensheim. J'avais entendu parler de Dieu pendant plusieurs années. Je lisais la Bible. Peut-être que je priais aussi. Je venais à l'église. Je connaissais les bons principes. Je les vivais, ces principes. Je ne connaissais pas Dieu. Et voilà que Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi. Ah bon, tu ne connaissais pas Dieu jusqu'à présent, Job ? Apparemment. Mais maintenant, mon œil t'a vu. L'homme instruit religieusement, maintenant, connaît, par expérience personnelle, qui est Dieu pour lui. Et vous savez ce que le texte ajoute ici, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job ? Il s'est même repenti, Job, au verset 6. Mais au verset 7, il dit, voilà, ma colère est enflammée contre toi et tous tes deux amis, dira-t-il à Eliphaz et Théman, les amis de Job. Oui, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme j'ai fait, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Quand tu pries pour quelqu'un, quand on se met tous à prier pour quelque chose, pour un objectif particulier, certains pourraient dire, mais qu'est-ce que ça va changer finalement ? Attendez, si tu pries pour quelqu'un et que tu suis la vie de cette personne, tu vas prier pendant un certain millénaire, a prié comme ça pendant 52 ans pour un ami, pour le fils, pour les deux fils d'un de ses amis. Et il me dit, je ne peux pas faire autrement parce que de toute façon, je prie pour leur salut. Qu'est-ce que Dieu peut me refuser pour ça ? 52 ans. Remarquez, si je réfléchis bien pour moi-même, je suis parti à prier pour mes enfants. Je crois jusqu'à ma mort, je vais prier pour mes enfants. Alors Job s'est mis à prier. Vous n'avez pas fait parler de moi avec droiture comme l'a fait Job. D'accord. Alors ils allèrent, les trois amis, faire ce que l'Éternel avait demandé. Et l'Éternel lui égare à la prière de Job. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Vous vous rendez compte, c'est suite à la prière de Job, ça. À l'intercession de Job pour ses amis. Tandis que c'est quand même ses amis, ils étaient proches. Est-ce qu'il les a considérés comme ses amis dans ses complaintes ? C'est vrai que c'est autre chose. Mais là, il est proche. Oui, Dieu veut que nous prions les uns pour les autres. Voilà un exemple. Prenons un autre exemple dans Éphésiens chapitre 6, un exemple du Nouveau Testament, où versets 18 à 20, où Paul invite à prier pour tous les saints. Et même il ajoute, priez pour moi, afin que je puisse avoir l'hardiesse, la force, le courage de parler, de prêcher, d'aller de l'avant. Mes amis, est-ce qu'on prie les uns pour les autres ? Est-ce que vous priez, j'imagine, allez, pour notre pasteur, pour sa famille ? Est-ce que nous prions pour les animatrices et animateurs de l'école du sabbat ? Des classes enfantines, des classes de jeunes, d'adultes ? Et là, je pourrais prendre tous les exemples. Je crois que la prière, aussi en équipe, est un bon moment ensemble. C'est bon de prier les uns pour les autres, ça fait du bien de prier les uns pour les autres. N'est-il pas vrai ? C'est intéressant de lire aussi pourquoi prier les uns pour les autres. Parce que la Bible nous témoigne de prières d'intercession de beaucoup d'hommes et de femmes. Vous êtes d'accord? On ne va pas prendre l'exemple, faire une étude là-dessus. Maintenant, on peut penser à Abraham quand il plaide pour Sodome et Gomorre. Ça va loin, hein, ça commence par 50 personnes. Seigneur, est-ce que tu es prêt à sauver 45, 30, 20, 10? Bon, on va s'arrêter là. 10, c'est le minimum. C'est le chiffre 10 dans la Bible. C'est le minimum que je peux faire pour toi. 10 commandements. 10, minimum. Aaron portait sur ses épaules comme une prière, parce qu'il avait deux pierres ici, sur le pectoral, 12 pierres, qui représentaient le peuple. Et quand il se présentait devant Dieu, c'est comme s'il portait le peuple devant Dieu. Waouh ! Il y a quand même des milliers de personnes là. Jésus, dans Luc 22, 32, lui aussi a expérimenté la prière d'intercession. Bien sûr. J'ai prié pour toi, dira-t-il à Pierre, pour que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Quand tu auras fait demi-tour, quand tu seras revenu vraiment à moi et tu te seras donné pleinement à moi, alors affermis tes frères. On n'est pas affermi pour nous-mêmes, on est affermi pour peut-être pour aider les autres, pour accompagner et soutenir les autres. Je pense à la prière sacerdotale de Jésus, chapitre 17 de Jean, où finalement c'est une prière orientée essentiellement vers le bien de ceux que Dieu lui a confiés. C'est vraiment une prière essentiellement. Il y a quelques mots concernant sa relation avec Dieu, bien sûr, mais essentiellement tournée vers les disciples, vers le monde. Prière d'intercession. Et on pourrait citer combien d'exemples. Je crois que la prière d'intercession aussi nous fait échapper au cercle de fer de l'égocentrisme qui enserre de plus en plus l'occidental du XXIe siècle. Oui, on est imprégné d'individualisme. L'individualisme du chacun pour soi est un phénomène unique et relativement d'ailleurs récent dans l'histoire de l'humanité. Si on remonte un petit peu l'histoire, on s'aperçoit que il y a eu la tribu, le village, la famille élargie, puis on arrive au XXe siècle. L'horizon s'est restreint, famille nucléaire, papa, maman et puis le bébé. Et puis maintenant, on en vient même un peu plus loin. Aujourd'hui, l'épanouissement personnel ou simplement son bon plaisir commande l'homme. On n'hésite pas à sacrifier conjoint et enfant, moi d'abord, tant pis pour les autres. Et en tant que chrétien, les chrétiens peuvent-ils subir cette influence individualiste qui les entoure? Grande question. La prière d'intercession est un premier pas hors de ce cercle. Par elle, Dieu nous éduque à l'altruisme. Dans la prière de requête, si on reprend les prières dont on a parlé, quand on parle de la prière demande-requête, c'est encore le moi qui en est l'objet. Ok, ça peut être légitime. Dans l'action de grâce, nous remercions pour les bienfaits que nous avons reçus. Dans la louange, nous nous détachons du moi pour nous centrer sur les perfections de Dieu. La prière d'intercession nous apprend à dépasser l'égoïsme si notre pensée s'arrête effectivement vers Dieu. La prière d'intercession est entièrement tournée vers les besoins des autres. La prière d'intercession est aussi la meilleure expression de notre amour pour les autres. Si nous aimons vraiment quelqu'un, nous souhaitons pour lui le plus grand bien à tous égards, physiquement, moralement, spirituellement. Or, nous savons que Dieu seul est capable de réaliser tous ses souhaits. Alors, apportons-lui dans la prière. Apportons. On ne peut rien faire. Nous, on n'est que des porteurs. Des porteurs de besoins, de situations. On n'a pas jugé les situations. Si tu as surpris un fer dans telle et telle situation, tu ne peux que le porter devant le Seigneur. Si, comme Paul, on a rendu grâce pour le frère ou la sœur, cette reconnaissance se traduira certainement par un abord plus affable. Remercier Dieu pour les autres nous habitue à inventorier leurs côtés positifs et change nos sentiments à leur égard. Je pense que le pardon, pour l'avoir expérimenté, commence par la prière, même si tu n'as pas le sentiment pour demander pardon à quelqu'un. Ça t'est pas arrivé, ça ? Mais tu peux commencer à prier. Prier pour cette personne. Ah, tu n'auras peut-être pas le cœur aussitôt. Mais tu peux prier pour cette personne. Et je suis convaincu que le Seigneur peut renouveler les sentiments qui sont en toi et de prier avec cœur à un moment donné. La prière d'intercession est un témoignage de reconnaissance pour toutes les prières dont nous avons bénéficié. Sans la prière d'intercession, d'autres chrétiens pour nous, nous ne serions pas, sans doute pas au point d'où nous en sommes aujourd'hui. Prier pour les autres n'est donc pas notre part, rien de plus que de rendre un bienfait reçu. Je connais une maman qui a prié pour son fils. Je l'entends, cette maman. J'étais à Toulouse à l'époque, qui a prié pour son fils pendant des années et des années. Et qui avait espoir, qui dit, de toute façon, Seigneur, va faire quelque chose. Et cet homme s'est donné au Seigneur à un moment donné de sa vie. Il s'est mis au service du Seigneur. Cet homme, peut-être qu'il est dans la salle maintenant, je ne sais pas, il se reconnaîtra. Grâce à quoi ? À la prière d'une mère persévérante. La prière d'intercession est l'un des meilleurs témoignages de notre foi. C'est une manière aussi de dire, de croire, bien sûr. On ne va pas passer du temps dans l'intercession, ça suppose une force, une foi entière dans son efficacité. Je prie parce que je crois que cela changera les choses, que Dieu bénira cette personne, enfin je ne sais pas ce qu'elle va faire pour cette personne. Et que Dieu va agir pour elle, pour son bien éternel. Je dirais enfin que la prière d'intercession renforce notre communion avec Dieu. Quand tu prends du temps pour prier pour les autres, tu te fais du bien aussi en même temps. Ça renforce, toi, ton lien avec Dieu en priant les uns pour les autres. Alors, chacun a ses habitudes de prière. Seul, c'est le plus souvent, hein, j'imagine, bien sûr. En couple, en famille, peut-être dans votre groupe de quartier, ou alors vous venez ici à la réunion de prière, le mardi soir à 19h30, c'est ouvert pour tous. Mais je comprends, vous habitez à même 25-30 km, vous allez travailler tous les deux, je pense à un couple, vous avez des enfants le soir, venir ici, c'est pas évident. Comment faire en sorte de vivre cette prière les uns pour les autres? Je pense que vous avez commencé, vous n'avez pas attendu pour prier les uns pour les autres, c'est certes. Je voudrais ce matin qu'on puisse... Je voudrais vous encourager, en tout cas. Et je pense à tous les responsables de l'Église, là. Parce que, vous savez, quand on est pasteur ou ancien, on entend des choses. J'oserais dire ce matin, je ne vais pas bien sûr citer un nom, mais... Je pense à deux personnes avec qui j'ai un contact cette semaine, qui sont des personnes qui servent le Seigneur ici, sur le secteur de l'agglomération mulhounaise. Et pourtant, ces personnes font partie d'une équipe, mais elles se sentent seules dans cette équipe. Et alors, pourquoi je vous invite et vous encourage. Si vous êtes animateur JA, vous formez une équipe. Si vous êtes animateur de l'école du sabbat, si vous êtes diacre ou diaconesse, ancien, quelles que soient nos activités, notre activité en équipe, priez l'un pour l'autre, les uns pour les autres. Je vous encourage. Vous savez, Jésus a créé du lien avec ses disciples parce qu'il priait pour eux aussi. Il les enseignait, c'est vrai qu'il y a différentes choses qui ont renforcé le lien que le Christ avait. Leur amour, son amour pour eux, certes, mais il priait pour eux. Alors je voudrais, pour terminer, vous proposer ce matin, enfants, jeunes et adultes, allez, c'est un défi là, une expérience d'intercession, si vous êtes d'accord. Vous avez reçu dans cette petit document, alors ça vous le rendez pas, c'est pas grave. Si vous le rendez, ça peut nous rendre service, nous, équipe pastorale, ce petit feuillet, mais vous êtes libre. On est libre de tout. Il y a un deuxième, c'est mon sujet de prière. Je souhaiterais qu'un membre de l'équipe pastorale prie. Si tu souhaites, si vous souhaitez, remplissez. Si vous ne voulez pas le mettre dans la corrélation, vous pouvez nous le remettre. Si tu veux qu'on prie avec toi, on peut prier avec toi. Par téléphone, si tu veux, aussi. Mais la petite feuille verte, c'est très particulière. Je vous propose de choisir, allez, au cours de la journée, un partenaire de prière. Peut-être que vous l'avez déjà. Moi, j'ai appris cette semaine que des personnes ici prient par téléphone avec une autre personne. On ne sait pas où est cette personne. Bon, j'ai rencontré un frère sur Melun hier qui m'a appelé Bertrand. Il habite Lemay-sur-Seine. Il m'a dit ce qu'il vit. Et je sais que ce frère prie avec un autre frère de Metz, de l'église de Metz, parce que je reviens de l'église de Metz, de ces derniers mois, et de Nancy. Et ce frère de Nancy, Cédric, prie pour Laurent. Ils sont à distance pourtant, hein. Ils prient par téléphone. Ils ont un rendez-vous de prière dans la semaine, et ils ne veulent pas manquer ce moment de prier l'un pour l'autre. Oh non, prier par téléphone. Mais si, tu peux prier par téléphone. Mais sens-toi libre, si tu ne veux pas prier par téléphone, vous pouvez vous retrouver à un moment dans la semaine. Si. L'intérêt et l'avantage par le téléphone, c'est que finalement, chacun choisit l'endroit très libre, le soir, vous convenez d'un horaire, ensemble, d'un jour, d'un moment, c'est chez soi, tu n'as pas à te déplacer, on va rester pratique, pragmatique, dans le siècle où on vit et dans les situations social que les uns vivent dans la semaine, c'est pas toujours évident de se déplacer, mais prends du temps, un quart d'heure, demi-heure, voilà, on prie ensemble, on échange, on se donne un verset biblique d'encouragement. On n'est pas là pour faire causette, mais on est là pour prier l'un pour l'autre. Ben, ça va échanger, ça va créer du lien, c'est vrai qu'on va peut-être ouvrir des choses, mais c'est vous qui voyez le cours que vous voulez donner à ce moment, quoi. Donc choisissez un partenaire de prière. Fixez-vous un rendez-vous. Et je vous le propose, cette expérience, jusqu'à la fin de ce trimestre. Allez, 13 semaines. Et je vous propose de nous retrouver le sabbat 30 décembre pour partager nos expériences et continuer à glorifier Dieu pour ses bienfaits. Oui, mes amis, c'est bon de prier les uns pour les autres. Je vous le dis par expérience. Hein. J'aurais pu aussi vous dire, d'ajouter tous ceux qui peuvent prier. Et j'encouragerai particulièrement les couples dans cette salle, ce matin, à prier l'un pour l'autre. J'allais oublier de vous le dire. Je ne sais pas si vous priez ou ne priez pas, si tu n'as pas prié depuis 8 jours avec ta femme ou avec ton mari. Bon, il y a des couples où seul adventiste, ok. Mais toi, si tu es seul adventiste, homme ou femme, tu peux prier pour ton mari ou vice-versa. Mes amis, je vous encourage sérieusement à prendre du temps à prier avec votre conjoint ou votre conjointe. On pourrait en dire beaucoup de choses par rapport à ça, de prendre le temps au quotidien de prier avec son conjoint et sa conjointe. Mes amis, c'est bon de prier les uns pour les autres, ça fait du bien. De prier les uns pour les autres, ça crée du lien. Et je crois que dans cette église, dans notre église ici de Damarie, on a besoin de renforcer nos liens les uns avec les autres. Si dans les partenaires, vous voulez, toi adulte, prier avec un jeune, allez-y. Téléphonez à ce jeune. Tout est possible en priant l'un pour l'autre. Que le Seigneur t'inspire, te guide. et te permettent de vivre une belle expérience de prier avec l'autre, parce que d'abord tu pries avec l'autre, avec un grand A, mais de prier avec l'autre, ça aide aussi la vie à vivre et renforcer nos liens les uns avec les autres. C'est ma prière.
Amen.